L de géant, L de géant, L de géant, L de géant. Bienvenue sur L de géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, L de géant reçoit Brigitte Giraud, autrice de romans comme Vivre vite, qui est sélectionnée cette année pour le Goncourt et le Goncourt des lycéens. Mais également autrice de nouvelles comme L'amour est très surestimé, qui a remporté le Goncourt de la nouvelle en 2017. Brigitte Giraud travaille également sur des projets de création musicale, des pièces de théâtre. Elle a dirigé aux éditions Stock une collection de littérature joliment appelée La Forêt. Elle est née en Algérie, elle vit à Lyon et elle publie cet automne, à l'École des loisirs, un roman dans la collection Medium intitulé Portée disparue. Bonjour Brigitte Giraud.
Bonjour.
Alors Brigitte Giraud, vous aimez les titres en forme d'expression. Celle-ci, Portée disparue, est d'autant plus inquiétante qu'il s'agit d'un jeune homme de 17 ans, Livio, qui a donc disparu sans laisser de traces. Ses proches s'interrogent, sa petite amie Camille notamment, ses parents, mais aussi sa professeure d'histoire et certains de ses camarades. Car le drame est survenu après un exposé qu'il a présenté en classe et au cours duquel il a été maltraité. La première question qu'on se pose, c'est « Mais que s'est-il donc passé ?» Plus la lecture avance et plus on en apprend sur les circonstances de sa disparition. Chaque personnage apportant à tour de rôle sa version, presque sa déposition, on pourrait dire. Comme dans une enquête qui progresse, une enquête justement où la police piétine. Alors Brigitte Giraud, que peut-on dire de cette disparition sans trop en révéler ?
Alors c'est une disparition qui a lieu juste la veille d'un week-end, après un exposé en cours d'histoire, dans le grand chapitre du nazisme. Livio s'était porté volontaire pour faire un exposé sur les autodafés nazis, donc ces livres qui ont été brûlés par les nazis au moment où le parti nazi accédait au pouvoir. Et en faisant ses recherches, il était tombé sur un personnage à l'époque méconnu ou oublié, ce fameux grand médecin Magnus Hirschfeld, qui a été le premier sur la planète à travailler sur la sexualité d'un point de vue scientifique. Le premier également à œuvrer pour l'égalité homme-femme, on est au début du XXe siècle, ce qui est très avant-gardiste, et à travailler pour la défense des droits des homosexuels. Et en fait, le lien entre cette recherche sur les autodafés et Magnus Hirschfeld, c'est que le premier endroit qui a brûlé, la première bibliothèque qui a été jetée au feu en 1933 en Allemagne, est celle de l'institut créé par Magnus Hirschfeld à Berlin. Donc à l'occasion de cet exposé, il va se dévoiler petit à petit, mais sans jamais dire « je », il va jamais parler de lui. Et c'est vrai que dans la classe, il va y avoir tout un tas de réactions, il va y avoir de la bienveillance, il va y avoir de l'hostilité, il va y avoir de l'indifférence, il va y avoir tout ce qui se passe dans une salle de classe quand on est en terminale, il va y avoir des différents groupes qui vont se créer, et puis il va y avoir évidemment la position très importante de Madame Martel, qui est la prof d'histoire, qui va sentir que petit à petit les choses sont en train de prendre une direction qu'elle n'a pas prévue, et qui essaye, avec sa bienveillance, avec son engagement de faire ce qu'elle appelle des jeunes gens qui deviendront des adultes éclairés, elle essaye de faire au mieux, mais comme souvent quand on est adulte, les choses vous échappent et elle comprend après coup ce qui a pu se passer. C'est vrai que c'est l'hostilité, notamment de quelques garçons au premier rang, qui à certains moments de l'exposé de Livio, vont être très gênés et vont, eux, mettre en scène leur part un peu virile, pour pas dire homophobe, parce que c'est aussi un livre qui pose la question de savoir ce qu'est l'homophobie.
On apprend en effet rapidement que Livio avait choisi pour sujet d'exposé d'évoquer donc Magnus Hirschfeld et les premiers autodafés. Donc la lutte de ce médecin juif allemand pour l'égalité homme-femme et les droits des homosexuels, vous venez de le dire. Mais ce terme homosexuel est employé quand il est question de ce médecin et de ses travaux, mais pas quand il s'agit de Livio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous n'avez pas employé ce terme ?
En fait, Livio, lui, ne va jamais parler de lui. Il ne va pas du tout faire un lien entre ce qu'il pressent être et Magnus Hirschfeld. Et puis ce terme n'est pas employé le concernant parce que on le voit aussi évoluer dans le livre. Ce sont d'autres chapitres, enfin d'autres monologues dans sa famille. Il y a aussi les monologues de son père, de sa mère, qui eux n'ont pas tout à fait compris qui était leur fils de 17 ans parce qu'il ne leur a pas donné suffisamment de clés pour comprendre, parce que c'est une famille dans laquelle il est compliqué pour lui de trouver sa place. Il est fils unique, il est fils de deuxième génération d'immigrés italiens, et c'est très difficile de prendre du temps avec les parents. Et c'est vrai que ce mot homosexuel, le concernant, c'est ce qui se passe pour les adolescents. Ils aimeraient que ce soit peut-être plutôt les adultes ou les camarades ou les autres qui aident à dire, qui aident à accompagner le mot. Donc le mot n'est pas prononcé le concernant.
Est-ce qu'on pourrait dire que cela relève du non-dit ?
Peut-être que ça relève du non-dit, mais ça relève aussi sans doute d'une peur, d'un silence, qui est souvent le cas à l'intérieur des familles, toutes origines et toutes classes sociales confondues, j'ai envie de dire. Parce que très souvent, quand les parents pressentent que cette chose-là peut concerner leurs enfants, je pense qu'il y a à la fois quelque chose qui peut s'appeler le non-dit, mais aussi le déni. Je pense que c'est peut-être un livre qui met en scène aussi ce déni, et le déni, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas voulu, qui existe comme une tâche énorme qu'on contourne dans les familles. Il y a quelques scènes autour de tables de la cuisine, il y a des scènes devant des matchs de foot, devant la télévision avec le père, où Livio essaye de s'approcher, il voudrait pouvoir dire, mais en fait, au moment où il voudrait dire, il se trouve que le père ou la mère à ce moment-là ne sont pas disponibles. Et je me suis vraiment rendu compte dans l'existence et dans l'écriture aussi de Portée disparue qu'on ne peut pas dire quand face à soi on a quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre. On ne parle que quand il y a une oreille et une présence disponible.
Alors vous parliez de la cellule familiale, on sait que les échanges peuvent être très violents dans les classes et les commentaires des camarades très profondément perturber un élève. Est-ce que vous avez déjà été témoin, peut-être victime de telles scènes ? Et comment votre attention de romancière s'est-elle cristallisée sur un exposé qui a d'abord donné lieu à un roman, Jour de courage, on peut le rappeler, que vous avez prolongé vous-même, ensuite sous une forme plus chorale dans Portée disparue ?
Alors j'ai assisté directement ou indirectement dans mon entourage à des paroles, à des attitudes, notamment envers de jeunes garçons, adolescents. C'est ce qui me bouleverse le plus, cette fragilité ou cette impossible virilité affichée. Il y a un moment où certains jeunes garçons ont du mal à trouver une place, par exemple dans leur collège, dans la cour de récréation, tout simplement parce qu'ils ne jouent pas au foot, parce que les sports collectifs ne leur conviennent pas. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour tous les jeunes homosexuels, hein. Chacun est différent. Ce que je voulais aussi pointer, c'est aussi le langage qui est le nôtre dans une société où des mots comme PD ou comme, je suis obligée de les prononcer, je suis désolée, comme enculé par exemple, sont des mots qui sont répandus dans la vie courante, y compris chez des personnes très éclairées, très intellectuelles, très tolérantes et pas du tout homophobes. Et ce langage-là, qui semble ne pas poser problème, moi, me fait une violence absolue. Donc c'est aussi un livre qui va essayer de décrypter ce qui, dans nos vies tout à fait ordinaires, peut être extrêmement violent, notamment pour ces garçons qui ont du mal à trouver leur place.
Vous voulez dire qu'on pourrait parler d'homophobie ordinaire comme on parle de racisme ordinaire ?
Ben complètement, c'est la même chose. C'est ce qu'essaye de pointer Portée disparue, l'homophobie ordinaire. C'est-à-dire, il y a cette scène de match de foot et il est d'usage, quand on regarde un match, de se laisser aller dans un langage parfois viril, C'est un peu un langage qui peut aussi être entendu dans la bouche des hommes quand ils sont au volant d'une voiture, sous forme d'insulte qui ne peut pas dire directement, mais la langue a quand même un sens, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. La salle de classe m'a intéressée parce que c'est vraiment pour moi le symbole de la micro-société. C'est-à-dire que dans une salle de classe, j'ai voulu que ce soit dans une banlieue ordinaire, et dans cette classe, il y a à peu près... presque toutes les couches de la population qui sont représentées. Comme je le disais, il y a aussi de la bienveillance, il y a de la tolérance, il y a de l'empathie, il y a d'autres jeunes gens qui sont concernés. Et puis, il y a quand même de la gêne. Il y a certains garçons qui vont jusqu'à proférer des cris d'animaux, tout simplement parce qu'ils sont très gênés. Et il se trouve qu'ils sont gênés à un endroit très précis de l'exposé de Livio. À un moment, Livio va parler de l'Institut donc de sexologie de Magnus Hirschfeld. Quand les nazis ont fait irruption pour prendre les livres et pour y mettre le feu, ils ont aussi voulu s'emparer des listes sur lesquelles était inscrit le nom des patients, ce qui leur permettait d'avoir un fichier avec le nom des patients très probablement homosexuels. Et sur cette liste, ils ont trouvé le nom de dignitaires nazis. C'est là que ça commence à être, où il se passe véritablement quelque chose. Et Livio ne va pas manquer de livrer ça à ses camarades, sans du tout laisser sentir qu'il est impliqué. À partir de ce moment-là, il y a une véritable gêne, parce que ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir une attitude qui est totalement fausse et être profondément quelqu'un de différent.
Vous disiez des attitudes viriles, on pourrait presque dire virilistes. Comment est-ce que vous avez travaillé les différents registres de langage, donc porté disparu et construit sur plusieurs monologues? On peut dire monologue, on parlait de déposition tout à l'heure, mais c'est presque à cheval avec les monologues intérieurs. Comment est-ce que vous avez réussi à changer de registre de langage en changeant de personnage, et comment vous êtes mise dans la peau de chacun?
Alors j'ai vraiment essayé de travailler de l'intérieur sur le détail, de me mettre vraiment à la place de... Par exemple, à la place de Camille, la petite amie de Livio, qui va entendre Livio faire son exposé. Et plus il avance, et plus elle comprend ce qui se passe, et plus elle se dit « Mais alors, je croyais qu'on était deux amoureux », et elle commence à découvrir qu'elle est en pleine souffrance. Ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu en littérature et qui m'intéresse beaucoup. Le point de vue de la fille éconduite, finalement, pour cette raison-là. Très souvent, dans mes livres, je me mets à la place d'adolescence. C'est une période qui restait très, très vive et très, et toujours présente, d'ailleurs, en moi. Donc là, c'était un des monologues qui n'a pas été très compliqué. Pour la mère, c'est quelque chose où j'avais besoin d'être davantage dans la peau d'une femme qui est prise par son travail, qui n'a pas beaucoup de temps avec son fils, qui ne le regarde pas suffisamment et qui est prise par la culpabilité après coup parce qu'elle n'a pas vu. Donc là, il y avait ce rapport de culpabilité qui était important. J'ai beaucoup aimé travailler et écrire ce monologue à la place du père. Ce père qui travaille dans le BTP. Je voulais que ce soit un homme... qui, au moment où il est très perturbé et très désespéré par la disparition de Livio, je voulais qu'entre le début de son monologue et la fin du monologue, il puisse comprendre que finalement son fils avait fait preuve de courage. Et je voulais qu'il soit tiré vers quelque chose. Je voulais pas être dans le cliché de l'homme qui travaille sur les chantiers, donc forcément un manuel, donc forcément homophobe, pas du tout, parce que ça se passe pas du tout à ces endroits-là. Et je voulais que ce soit quelqu'un qui, petit à petit, soit peut-être un peu limité dans son langage, mais se rende compte que lui-même a été humilié pour d'autres raisons. Donc ça m'intéressait beaucoup. Ce qui a été le plus difficile pour moi, et c'est un monologue que j'écris en tout dernier, c'était de me mettre à la place des deux garçons qui sont au premier et au deuxième rang et qui vont agresser Livio. Qui vont l'agresser sans être courageux, puisqu'ils ont la prof dans le dos, ils n'y vont pas franchement, ils sont un peu lâches. Et ensuite, ils vont, pendant le week-end qui va suivre, c'est là que ça va se passer, hein, puisqu'il y aura ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Ils vont dénoncer et la prof, parce qu'on a parlé de la théorie du troisième sexe en cours. Et là, ça va partir sur les réseaux sociaux et ça va être très difficile. Donc ça a été très difficile à approcher parce que il a vraiment fallu que je me déplace, moi, et que j'essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête de garçons qui se sentent menacés par le féminin dans le masculin. Et ce que j'ai beaucoup aimé écrire, c'était le monologue de la prof d'histoire, Madame Martel. J'ai eu la chance d'être invitée souvent dans des lycées pour mes différents romans, qui mettent souvent en scène des adolescents, comme je le disais. Je trouve qu'il y a des profs, mais qui sont remarquables, tellement investis, tellement courageux, tellement dans une façon d'accompagner et d'aimer les adolescents, de les protéger, de les éduquer au bon sens du terme. Et j'avais envie vraiment que cette prof, sans être caricaturale, soit un peu perdue, mais soit aussi portée par un idéal d'enseignement dont on pourrait souhaiter qu'il ne disparaisse pas, ou pas trop vite. Et c'est aussi un livre qui pose la question vraiment de qu'est-ce que c'est qu'enseigner, qu'est-ce qu'on a à transmettre, comment on peut prendre soin de ces jeunes qui sont tellement malmenés par le monde dans lequel ils vivent. Et les profs, c'est comme les parents, ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément le temps de tout voir, de tout comprendre et de réagir à temps. Donc là, j'ai été portée par une expérience vécue souvent qui m'a moi-même portée.
Livio apparaissait déjà dans Jour de courage. Qu'est-ce qui s'est passé entre Jour de courage et Portée disparue ? Quelle transformation avez-vous opéré ?
Alors, c'est vraiment deux livres complètement différents. Jour de courage est paru en 2019 chez Flammarion. Il se trouve que ce roman a été adapté au théâtre, donc par la scène nationale de Dunkerque, qui m'a commandé l'écriture de monologues pour mettre en scène ce roman de cette façon-là. Donc j'avais déjà écrit certains monologues, mais pour la scène. Finalement, j'ai réécrit pour un livre pour adolescents, pour l'école des loisirs. Mais entre l'écriture pour la scène et l'écriture pour écrire un livre, évidemment, c'est fondamentalement différent. On n'est pas du tout... Les monologues, là, ne vont pas être pris en charge par des comédiens qui vont les incarner physiquement. Donc il fallait que je trouve une écriture différente, revenir à quelque chose de plus intérieur et qui allait se donner à lire à voix silencieuse ou pourquoi pas à voix haute. Donc c'est un troisième passage, si je peux dire, dans Portée disparue. La différence fondamentale avec Jour de courage, c'est qu'à la fin, Livio prend la parole. Ça, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais il y a ce monologue de Livio qui va en dire un peu plus sur le comment et le pourquoi de sa disparition. Mais là, j'ai eu besoin de continuer à inventer quelque chose.
Vous êtes donc passé du roman au monologue de théâtre, puis au roman jeunesse. Est-ce que quand on écrit pour la jeunesse, même si c'est pour un lectorat adolescent, c'est dans la collection Medium, donc adolescent lycéen, on pourrait dire, puisque c'est Medium Plus. Est-ce que quand on écrit pour la jeunesse, il s'agit d'un genre différent ? Voilà, est-ce qu'on se fixe juste des contraintes formelles ou est-ce qu'on s'interdit ou est-ce qu'on se pose d'autres règles que quand on écrit pour un lectorat général dit adulte ?
Alors ça, c'est vraiment une question qui est très importante. J'avais eu plusieurs propositions de différents éditeurs d'écrire des livres pour les adolescents. Je n'étais jamais embarquée dans l'aventure parce que je ne voyais pas vraiment s'il fallait écrire différemment et comment écrire. Je ne sentais pas vraiment les choses. Là, ça s'est passé d'une façon extrêmement... Je me suis mise à l'épreuve en l'écrivant vraiment, en écrivant ces monologues. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est une chose assez simple. Je m'efforce d'entrer un peu moins dans le détail. Peut-être donner moins d'informations, leur laisser au lecteur davantage de place. Ne pas décomplexifier, au sens ne pas rendre moins complexe. Avoir conscience qu'on s'adresse à des lecteurs qui n'ont pas encore une expérience de vie, et ça fait quand même une différence. Quelqu'un qui a 16 ou 17 ans, qui va lire Portée disparue, n'a pas la même expérience par exemple de la discrimination que quelqu'un qui a traversé une existence entière et qui peut en avoir déjà tiré des conséquences. Voilà, c'est plus à ce niveau-là, mais garder tout ce qui est complexe malgré tout, parce que je trouve qu'on est dans un monde qui a tendance à simplifier. surtout les réseaux sociaux auxquels les adolescents s'abreuvent beaucoup, c'est-à-dire c'est plutôt j'aime, j'aime pas, je suis pour, je suis contre, et la littérature est quand même l'endroit où on peut les aider à les accompagner dans la nuance, donc toujours garder quelque chose qui soit nuancé, qui les interroge ou qui les surprenne, qui les déplace, qui les choque éventuellement, ça m'intéresse beaucoup.
Est-ce que par exemple il y a des moments où vous vous êtes dit alors ça non, ça je dis pas, ou ça il faut le maintenir, ou ça je veux aller jusque là?
Je me suis pas sentie face à des tabous particuliers parce que je suis dans la même situation que Livio, c'est-à-dire que ce qui tient vraiment le roman, c'est quand même la part historique de ce qu'a vécu Magnus Hirschfeld, c'est la recherche de ce médecin dans les années 20, c'est le combat de ce médecin, et c'est quand même un livre qui dit qu'il y a un siècle, quelqu'un a été aux avant-postes, il a voulu faire supprimer le paragraphe 175 du code pénal allemand qui pénalisait l'homosexualité, notamment les relations entre hommes, et il avait à cette époque-là déjà réuni 5000 signatures, dont les plus grands écrivains de l'époque, des Stefan Zweig, des Freud, Einstein, Thomas Mann, des gens comme ça, et c'est ce que va raconter Livio. Donc moi, en me plaçant dans un contexte historique, ça me permet de transmettre une tranche d'histoire qui est extrêmement intéressante. Ce que j'ai voulu aussi dans ce roman, plutôt que de parler de l'intimité des uns ou des autres, c'est de dire qu'à un moment donné, il y a eu une montée de l'extrême droite. On n'est pas sans ignorer que c'est ce qui se passe en ce moment dans beaucoup de pays d'Europe, y compris la France. Et je voulais redire ce qu'est l'extrême droite, qu'on a tendance à banaliser. Et par ce pan d'histoire, ça me permet de remettre très précisément certaines choses dramatiques, qu'on brûle des livres, qu'on déporte des gens, qu'on ne supporte pas des minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient raciales ou qu'elles soient politiques. Donc j'ai voulu, par la voie et par la trajectoire de Magnus Hirschfeld et de son institut, redire des choses absolument fondamentale, qu'il faut absolument asséner à nouveau aujourd'hui. J'ai l'impression que cette mémoire ne se transmet pas vraiment quand on voit la façon dont l'extrême droite est en train de gagner en étant de moins en moins effrayante. Et je pense qu'il faut à nouveau avoir peur.
Vous disiez les relations entre hommes et tout à l'heure, vous disiez avoir été témoin de situations de violence subies par des jeunes garçons, des jeunes hommes. Est-ce que ça veut dire qu'entre femmes, par exemple, c'est moins violent ou c'est plus caché?
Je ne saurais pas vous dire. Je pense que ce n'est que mon avis, hein, mais je pense que ce qui dérange davantage l'ordre social, avec des guillemets, mais qu'on peut nommer de cette façon, c'est davantage la relation entre hommes et le féminin dans le masculin, c'est-à-dire l'homme qui se dévirilise. Je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué pour une société. On a vu notamment la façon dont la proposition de loi pour le mariage pour tous, il y a quelques années, a rendu hystérique une partie du pays. Moi, c'était la première fois que je voyais descendre dans la rue des gens qui manifestaient non pas pour avoir des droits, mais qui manifestaient pour que d'autres n'aient pas de droits. J'avais jamais vu ça et ça a fait mal à énormément de personnes autour de moi. Ce qui est compliqué d'un point de vue de la société avec l'homosexualité, c'est qu'a priori il n'y a pas de descendance possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille possible. Et c'est vrai que l'idée de deux hommes ensemble pour procréer doit faire appel à une mère porteuse, donc ça pose un problème supplémentaire d'un point de vue social. Pour les femmes, il me semble que la question se pose différemment et qu'elle est reçue de façon peut-être un peu moins violente, mais ce n'est qu'un sentiment. Et pour revenir au fameux paragraphe 175 du code pénal allemand qui pénalisait l'homosexualité, elle pénalisait les relations entre hommes. Il y a une question évidemment physiologique qui se pose et qui, de façon plus ou moins inconsciente, pose problème parce que il y a tout un tas d'images en arrière-plan qui peuvent déranger plus facilement
les hommes.
Un corps social.
Ce qui est assez terrible dans ce que racontent les personnages, c'est qu'ils sont tous passés à côté de quelque chose concernant Livio, on pourrait dire à côté de Livio. Ils se sont trompés, et pas seulement dans leur compréhension de qui il était avant de disparaître, mais dans leur comportement à eux. La professeure d'histoire, par exemple, dont vous parliez, elle est troublée et troublante, parce qu'elle s'en veut de ne pas être intervenue davantage quand les réactions d'hostilité ont commencé pendant l'exposé. Elle s'en veut aussi d'avoir quitté le cours précipitamment, parce qu'elle avait un rendez-vous juste à la fin du cours, alors qu'elle aurait pu, elle aurait dû, prendre le temps de parler avec Livio de ce qui venait de se passer. Et finalement, elle l'a laissé seule face à ce qui venait de se passer. Et ce raté, il aurait pu avoir un impact déterminant sur la suite des événements. Alors vous, ce raté, il vous intéresse particulièrement, et c'est un motif qui revient également dans Vivre vite.
Oui, parce que là, on peut se dire aussi, si la prof était restée plus longtemps, si elle avait cadré davantage les autres lycéens en même temps, elle les cadre plutôt bien, je trouve qu'elle fait quand même le mieux possible ce qu'elle doit faire, parce qu'elle est surprise, elle ne sait pas du tout que cet exposé va partir sur ces questions d'opérations, de changement de sexe. Il y a tout un tas de choses qui se font, qui sont tout à fait à leur place dans le contexte de Magnus Hirschfeld, mais qui dépassent quand même un peu la question des autodafés. Donc elle n'a pas du tout pu anticiper. Je pense que nos vies sont vraiment construites sur cette question-là. On passe à côté, on arrive trop tard, on comprend après coup. C'est comme les parents. Alors la prof, là, en effet, elle a un rendez-vous avec l'administration juste après la fin du cours. Elle ne peut pas se permettre de faire attendre le proviseur et elle se dit, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, elle se dit, c'est les choses qui traversent nos cerveaux. On sait très bien qu'à un moment, on devrait peut-être rester. Et en même temps, il y a quelque chose qui est impératif, qui est urgent. On est partagé entre deux et parfois, on fait le mauvais choix. Là, c'est un mauvais choix. Et elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne sait pas que ça va s'emballer pendant le week-end. Donc, elle se dit, lundi, je prendrai le temps de parler à Livio, de le complimenter, parce qu'il fait un exposé extrêmement brillant. Il a travaillé vraiment pendant des semaines et des semaines le soir dans sa chambre chez lui sans que personne s'en rende compte, même pas sa petite amie Camille et évidemment pas ses parents. Donc elle se rend compte que son exposé est brillantissime. Alors c'est un élève plutôt discret, plutôt timide, plutôt qui s'est jamais fait remarquer. Nos vies fonctionnent vraiment de cette façon. C'est surtout les parents aussi. Donc c'est un livre qui peut parler de culpabilité, de responsabilité. Je pense que dans un corps social, on est quand même tous responsables de tout le monde. On peut pas dire qu'on n'est pas concerné. Le fait de ne pas réagir face à certaines questions sociales, ça veut dire qu'on peut consentir, qu'on peut être d'accord. Très souvent, on n'est pas d'accord, mais en même temps, on va pas s'opposer, on va pas descendre dans la rue. On n'arrête pas en ce moment, là. Ça, je trouve qu'on est dans un vertige par rapport au climat, par rapport à la chose politique, par rapport à l'extrême droite au deuxième tour. Pourquoi on n'est pas tous dans la rue? Enfin, c'est quand même des questions totalement, totalement folles. Ce qui me permet de revenir sur moi, ce qui me fait écrire, ce qui m'a fait écrire beaucoup de livres et ce qui m'a fait écrire Jour de courage, c'est la question de la manipulation et la question du conditionnement des masses. Comment on conditionne des citoyens et comment, petit à petit, les gens, sans s'en rendre compte vraiment, vont accepter l'inacceptable parce que la graduation est extrêmement progressive. Et il y a un moment où il est presque trop tard pour réagir.
Oui, si on réagit mal ou de manière inappropriée ou pas au bon moment, finalement, c'est parce qu'on a été conditionné par tout un tas d'événements passés qui nous emprisonnent. Alors, vous avez raison, il y a les ratés ponctuels et puis il y a des choses qui se font plus sur la longueur. Et là, moi, je pense plutôt aux parents. Effectivement, ils passent à côté de leur fils, où ils sont passés, où il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Est-ce que vous pensez, parce que je trouve que c'est assez terrifiant, de se dire qu'on peut passer comme ça à côté de nos proches, même quand on les aime, même quand on est attentif? Il y a quand même un moment où on n'est pas suffisamment attentif, où il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on court tous ce risque, finalement?
Moi, je pense oui, qu'on court tous ce risque. Après, dans ce qui s'appelle une famille, c'est extrêmement complexe, c'est-à-dire que les parents n'ont pas à tout savoir des enfants, et vice-versa. Une fois que Livio a disparu, pour essayer de comprendre, les parents, à un moment, avec la police, vont devoir fouiller l'ordinateur et même fouiller la chambre. Et je crois que c'est la mère, à un moment, qui dit ça. Elle a besoin de savoir et en même temps, elle ne veut pas savoir. Parce que prendre le risque de savoir, c'est prendre le risque de découvrir quelque chose totalement déstabilisant et qui peut être très effrayant. C'est pour ça que je parlais de déni. Et c'est vrai que le déni ou le fait de se tenir à distance, ça permet aussi de faire tenir des familles qui tiennent souvent sur des malentendus, sur des non-dits, sur des choses qui sont pas terribles. Mais on ne peut pas tout le temps donner à voir qui on est. Il y a des choses qu'il faut en effet passer sous silence, qu'il faut cacher. Mais là, dans ce livre-là, on est face à quelque chose d'extrêmement important. C'est quand même un adolescent qui a déjà 17 ans, dont les parents ne savent pas qu'il est homosexuel, parce qu'il leur a pas donné suffisamment de signes, parce qu'il s'est pas senti suffisamment en confiance pour prendre le temps de leur dire. La question du coming out, le premier titre du livre Jour de courage, au départ, s'appelait « Coming out ». Et puis il m'a semblé que c'était beaucoup trop direct et beaucoup trop presque racoleur en fait, beaucoup trop... ça me convenait pas, mais c'est quand même cette question-là. C'est un mot qui, comme par hasard, n'a pas d'équivalent dans aucune langue. Il n'y a pas de mot pour dire ni en français, ni en italien, ni en allemand. Il y a ce mot « coming out » qui est un drôle de mot. Et le fait que le langage ne permette pas de nommer cette chose-là, ça en dit long aussi sur notre incapacité à permettre qu'un enfant puisse, sans crainte... Alors ça arrive très souvent, il y a beaucoup de familles chez qui ça se passe bien et heureusement, mais il y a beaucoup de familles chez qui c'est dramatique. Il y a une association qui s'appelle Le Refuge, qui existe, et dans laquelle sont hébergés des jeunes gens qui ont été virés de chez eux parce que les parents n'ont pas supporté leur homosexualité. En France aujourd'hui, c'est absolument terrifiant, sans parler de tous les pays du monde où l'homosexualité est encore un crime ou quasiment un crime.
Vous avez réfléchi, vous, qui aimez bien les expressions, à ce qu'on pourrait utiliser comme expression en français pour dire ça, coming out ?
Alors quand Jour de courage est paru, il y a eu une très bonne surprise, c'est l'Académie française a proposé que Jour de courage soit l'expression qui puisse être utilisé en français, mais ça n'a été qu'une proposition. Donc je ne sais pas du tout où ils en sont du vote. Donc il y a eu cette proposition au sein des membres de l'Académie, ce qui m'a bouleversée en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit qu'il faille du courage. Le simple fait de dire qu'il faut du courage, ça en dit déjà long sur la non-banalité de la chose. On pourrait plutôt espérer qu'il n'y ait pas besoin à un moment de dire quelque chose, mais j'ai cherché dans d'autres langues, j'ai questionné pas mal de personnes et personne n'a pu me donner une autre expression qui soit acceptable.
Adéquate. On va lancer un concours. On sait que les campagnes contre le harcèlement prennent de l'ampleur dans les établissements scolaires. Est-ce qu'on peut imaginer que la publication de Portée disparue, est-ce qu'on pourrait dire que Portée disparue, c'est une sorte de cas d'école en la matière ?
Oui, sans doute. Je pense que ça fait partie des situations qui doivent exister. Pas forcément de cette façon-là précisément, parce que là, il y a quand même aussi cet alibi intellectuel qui est véritablement mis en scène, parce que je voulais aussi poser la question de comment on transmet l'histoire aujourd'hui. Donc c'était peut-être ce qui m'a fait le moteur le plus fort pour l'écriture de ce livre. Moi, j'ai l'impression qu'on va pas tellement dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de discrimination, qu'on parle beaucoup de harcèlement, qu'on encourage beaucoup les jeunes gens et les femmes d'une autre façon dans la société, ou les hommes, enfin peu importe, toutes les personnes discriminées ou harcelées, à oser prendre la parole, à oser porter plainte, à oser se battre pour dénoncer cela. J'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup de temps, parce que ce dont parle Portée disparue, c'est aussi la force du groupe contre l'individu isolé. Et un groupe qui, à un moment, va se liguer contre quelqu'un qui est seul, dans sa situation, ça crée quelque chose de terrifiant. Il se trouve que les garçons de la classe, s'ils étaient face à face à Livio, en face à face, en général, il se passe peu de choses. En face à face, on peut parler, on peut écouter l'autre, on peut prendre le temps, on peut même l'aider à penser un tout petit peu différemment. Mais la force du groupe, ce qui s'appelle la meute, ce qui peut devenir une meute, on sait bien que c'est ce qui va créer des choses terrifiantes. Tous ces phénomènes de groupe m'intéressent énormément, tous ces mouvements de... Donc on peut aussi imaginer que le groupe soit un moteur pour porter des idées des idées belles, fortes et tolérantes, ce qui arrive fréquemment aussi.
Oui, puis on observe quand même chez les adolescents, les plus jeunes, peut-être les plus âgés maintenant, mais des frontières qui bougent, ils sont quand même plus décontractés et plus souples sur les questions de genre. On peut espérer que Portée disparue leur donne des forces individuellement ou en groupe. Merci beaucoup Brigitte Giraud.
Merci à vous. Merci.
À bientôt sur Aile de Géant peut-être.
Ouais, on se dit à bientôt.
Ah
ouais, c'est une bonne idée.
Aile de Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chan. À bientôt pour un prochain épisode sur Aile de Géant.